Cette rencontre qui s'inscrit dans un projet qui est né en 2022 à l'initiative de Zoé Schweitzer, ici présente, qui s'appelle le Canon sur les planches et qui associe l'Université Jean Monnet de Saint-Étienne et la Comédie de Saint-Étienne. Donc, avant de vous présenter les grandes lignes de ce projet, je voudrais remercier la Comédie de Saint-Étienne, son directeur Benoît Lambert, toute l'équipe ici présente, sa capacité d'adaptation pour vous accueillir au mieux aujourd'hui. Remercier évidemment chaleureusement Anne-Laure Liégeois d'accepter de venir partager avec nous son travail sur FED, hein, qui est le sujet de notre rencontre aujourd'hui. Et remercier, mais elles se présenteront, mes deux collègues de l'université, Zoé Schweitzer et Delphine Rodin. Donc, ce projet, le Canon sur les planches, s'inscrit dans le cadre de l'Institut Art. L'Institut Art, c'est un institut qui réunit l'université, les écoles d'art de Saint-Étienne, l'école de la comédie, l'école nationale d'architecture, l'école supérieure d'art et design, des institutions aussi, le musée d'art moderne et contemporain et le musée d'art et d'industrie, et le musée de la mine. Dans un objectif commun de, bah, comme aujourd'hui finalement, favoriser le dialogue, développer des passerelles en matière de formation, en matière de recherche et cultiver en quelque sorte ce terreau si fertile des arts et de la culture à Saint-Étienne. Donc, dans ce cadre-là, ce projet peut se déployer pleinement. Alors qu'est-ce que c'est que le Canon sur les planches ? C'est un projet qui vise à interroger les œuvres dites du patrimoine, du canon, en les confrontant au regard des praticiens du théâtre, metteurs en scène, comédiens, et des chercheurs universitaires. Avec l'idée que cette rencontre, ce dialogue entre praticiens et chercheuses et chercheurs, permettront d'éclairer, de mieux comprendre la contemporanéité, l'actualité, on va dire ça comme ça, de ces œuvres du canon. Et de partager aussi nos méthodes, hein, parce que le monde de la recherche et le monde des pratiques, c'est aussi un des principes de l'Institut Art, ne sont pas des mondes hermétiques et gagnent absolument à être en dialogue constant. Voilà, donc le sujet d'aujourd'hui, c'est la mise en scène de Phèdre par Anne-Laure Liégeois, qui est actuellement donnée à la comédie. Et je vais laisser les différentes participants se présenter avant que l'on entre directement dans le vif du sujet.
Donc, Zoé Schweitzer, je suis professeure de littérature comparée et je m'occupe essentiellement de théâtre entre le 16e et le 18e siècle et notamment l'articulation de l'Antiquité et de ses réécritures contemporaines au 17e ou aujourd'hui encore.
Donc, je suis Delphine Rodi, je suis donc professeure en littérature française du 17e siècle à l'Université Jean Monnet. Je suis très heureuse de voir des étudiantes et des étudiants d'ailleurs. Racine a une grande place dans mon cœur d'abord et puis dans ma recherche et mon enseignement. C'est un auteur auquel je suis extrêmement attachée et qui donne beaucoup à réfléchir. Donc j'étais très stimulée, beaucoup réfléchi, beaucoup médité sur la mise en scène cette nuit. Donc j'ai hâte d'en parler avec vous. Voilà.
Moi, je suis Anne-Laure Liégeois et je suis metteuse en scène.
Bien. Alors, notre première question, sans surprise, je pense, est liée à ce projet, le canon sur les planches. Qu'est-ce que ça signifie pour vous de mettre en scène les classiques ? Ce n'est pas la première fois que vous le faites avec FED. Hein. Vous avez mis en scène Médée, Thieste de Sénèque, Molière, Marivaux, Corneille, Shakespeare. Quel est votre rapport à ces textes dits du canon, du patrimoine ? Comment vous pensez, ou pas du tout d'ailleurs, leur actualisation, leur actualité ?
Alors en fait, ils existent parce qu'existent aussi les textes contemporains, parce que ma particularité, je ne fais pas exprès, hein, c'est comme ça, c'est que je mets en scène aussi bien des textes voir que des textes contemporains. J'essaye d'alterner. Je me suis rendu compte que j'avais fait 58 mises en scène et que ça devait être à peu près moitié-moitié, mais qu'il est question aussi pour moi d'espace public et aussi d'opéra, de cirque. Enfin voilà, en fait, ce qui m'intéresse, c'est la langue, et c'est la rencontre avec des langues. Et puis, pour ce qui est de se dire est-ce que c'est contemporain ou pas, je ne sais pas si je vais faire vraiment les bonnes réponses, parce que c'est des réponses qui ne sont que des réponses de cœur, c'est-à-dire oui, je le pense forcément de façon contemporaine, parce que je vis ici et maintenant. Et donc, je peux pas, si d'un seul coup, Phèdre, que je fréquente depuis très très longtemps, c'est aujourd'hui d'un seul coup que je me dis je vais la mettre en scène. Enfin, c'est pas rien de mettre en scène, oui, c'est pas rien, mais c'est surtout que mettre en scène, c'est monter toute une production et c'est un travail de longue haleine. Enfin, c'est 3 ans, 4 ans, 5 ans de travail parfois. Donc, voilà, il faut que ce soit, c'est à chaque fois important. Mais ensuite, pour les textes qui sont des textes de répertoire, c'est des textes qui vont être pour moi liés. Alors, les textes classiques vont être très fortement liés aussi aux textes antiques. Et puis très fortement lié au texte même de presse, enfin voilà tout un truc. C'est un peu comme quand on est enceinte, on voit que des femmes enceintes. Et donc, quand on fait Phèdre, on voit que tout y revient toujours. Donc en fait, oui, c'est des textes du répertoire, mais que j'envisage dans le présent. Mes racines, je ne peux pas l'envisager sans Euripide non plus, sans aussi tous ceux qui ont fait des mises en scène avant moi, et même dans mes contemporains qui mettent en scène aujourd'hui, on fait tous partie de, voilà, chaque œuvre, enfin chaque présentation est liée à tout un contexte. Ça va ?
Je précise qu'il n'y a pas de bonne ni de mauvaise réponse, elle est juste votre expérience des textes qui nous intéresse beaucoup. Zoé, tu voulais prolonger ?
Non, peut-être. Enfin, comme moi j'ai un peu travaillé sur Sénèque, du coup je m'interroge sur peut-être la question des sources, et est-ce que lire quand on. Parce que quand on est universitaire, quand on lit forcément Racine, on se dit avec qu'est-ce qu'il a appris à Sénèque, qu'est-ce qu'il a appris à Euripide. Et dans le fond, je me demande si c'est une démarche purement universitaire, un peu, voilà, ou est-ce que ça vous paraît à vous une démarche aussi stimulante que d'être dans ce travail de comment est-ce qu'on réécrit la même histoire et qu'est-ce qu'on y apporte de nouveau et qu'est-ce que ça fait jouer ?
Alors en fait, j'ai très peu fait d'études comparatives de Euripide, par exemple, et de Racine, mais il se trouve que j'ai fait des études de lettres anciennes, et donc... C'est un peu ma famille, tous ces gens-là. Je les connais très bien, je connais leur descendance, je connais... Donc, peut-être je peux raconter juste une anecdote qui fait que je ne suis pas allée vraiment faire des comparaisons, parce que en fait, j'ai eu la chance, la joie de travailler à la BNF, Richelieu, pour la réouverture, et tous les départements m'étaient ouverts, et tous les conservateurs... m'emmenaient chacun avec beaucoup de fierté dans leur département. Et il y a un département livres rares dans lequel on marche très très prudemment, on est dans le noir, on avance. Et puis le conservateur m'a emmené dans une petite armoire, et puis il a sorti, il m'a dit tiens, au hasard je prends un livre, et il se trouve qu'il me sort le livre que possédait Racine d'Euripide, la version d'Euripide. Et puis il l'ouvre et puis il me montre Théramène, et en fait dans le livre donc de Racine, son livre, c'était quand même assez émouvant comme moment, il y avait sa petite écriture à côté du récit de Théramène, donc quelque chose qui était totalement en miroir, qui était donc voilà, en fait on est tous dans une grande chaîne. Et bon, en fait j'ai beaucoup étudié Phèdre dans ma scolarité, elle était au programme tous les ans, j'ai l'impression d'être poursuivie assez longtemps, même après le lycée, le collège, la fac, tout ça, la prépa, elle était là, et du coup j'ai quand même pas mal J'ai pas mal travaillé là-dessus. Et là, pour le coup, c'était pas forcément le Ripide qui revenait ou Sénèque. C'était plutôt de Sénèque le festin de Thieste. Parce que c'est pour ça que ma compagnie s'appelle Le Festin, d'ailleurs. C'est que c'est vraiment un texte qui est vraiment, que je porte beaucoup, qui est lié à la nourriture, enfin, qui est lié à l'absorption de ce qu'on a de plus cher. Et souvent, quand Thésée ou Phèdre parlent souvent de leurs entrailles, et Thésée, évidemment, va dire qu'il sent son fils à l'intérieur qui lui crée de l'émotion, qui bouge. Et vraiment, l'image la plus forte est celle de Thieste ayant mangé ses enfants qui lui ont été servis par Atrée. Et il dit « Oh, qu'est-ce que je mange bien, qu'est-ce que je suis content, oh, je serais vraiment très heureux si tu m'amenais mes enfants. » Il dit ça à son frère jumeau, puis son frère lui dit « T'inquiète pas, ils sont pas loin. » Et puis quand il lui dit, d'un seul coup, il sent ses enfants à l'intérieur de son propre ventre, enfin c'est assez affreux. Mais c'est aussi, je suis faite de beaucoup de ces horreurs-là, et du coup, c'est aussi ce qui fait que cette Phèdre, j'allais dire cette Médée, cette Phèdre est une Phèdre aussi peut-être antique, en tout cas c'est ce qu'on a pu me dire, mais dans sa violence et dans...
On va revenir évidemment sur les choix de mise en scène. Peut-être encore une question de préambule, de méthodologie. On a commencé à l'aborder avec le rapport aux sources. Vous avez dit, et ça nous touche beaucoup parce qu'on en parlait tout à l'heure, que ce qui vous intéresse dans la pièce, c'est la langue. Enfin, que pour vous, ça a été vraiment votre motivation. Comment vous appréhendez la lecture, peut-être, de ce texte, la bibliographie qui pourrait l'entourer, ou pas du tout? Là, je fais évidemment un parallèle avec le travail de recherche. Est-ce que la question de la représentation du XVIIe siècle français, c'est posé pour vous quand vous avez choisi Phèdre? Enfin, voilà, ces questions de méthode, de rapport au texte, de confrontation au texte direct, indirect.
En fait, je travaille beaucoup sur beaucoup comme à l'école. C'est-à-dire que je vais travailler pendant 3 ans à peu près sur ce texte-là. Alors, c'est pas 12 heures par jour, mais c'est un texte qui est présent tout le temps. Et je vais faire vraiment l'analyse des champs sémantiques, les différentes parties. Enfin, je reste très très proche du texte, et en m'interrogeant sur chaque mot, en essayant de jamais laisser passer le sens d'un mot, de voir vers quoi il s'ouvre. Enfin, c'est... Voilà, après, ce qui me porte aussi, c'est cette connaissance de cette histoire-là, en fait, de l'histoire de... Alors, je continue à aller voir dans des dictionnaires, et d'ailleurs, je trouve que c'est assez impressionnant de voir comment, même dans les livres pour enfants, même dans Grimald, enfin, vraiment dans des dictionnaires très, très sérieux, quand on regarde le parcours de Thésée, c'est vraiment le héros de l'Attique. Hein, il fait des choses absolument formidables. Juste ce que nous dit Racine, ce qu'on voit vraiment et ce qui est écrit, c'est qu'il y a ça, ce que Théramène raconte à Hippolyte. Mais il dit aussi, Hippolyte, tu sais, quand tu me racontais Hélène kidnappée, Ariane abandonnée, Phèdre kidnappé aussi. Racine est très très conscient de cet autre volet du héros qui serait vraiment le contraire d'un héros. Moi, c'est vrai que c'est ce qui m'a intéressé, mais c'est ce qu'on lit peu. On lit peu dans les livres, et c'est assez amusant, par exemple, parce que c'est là. Enfin, j'ai l'impression qu'ils sont là pour de vrai. Hein, pardon, mais bon. Quand Thésée arrive et qu'il dit pour Pirithoeus qu'il est descendu aux enfers aider son ami, on a compris, quand on a pu entendre ce qui se dit avant, c'est qu'effectivement il est descendu aux enfers pour rendre l'appareil à son copain Pirithoeus, parce qu'en fait, quelques temps avant, donc ils sont descendus aux enfers pour aller chercher la femme d'un autre, normal, et la ramener, la kidnapper, enfin la ramener, la violer au passage, enfin bon, la ramener. Elle, on ne lui demande absolument pas son avis. Mais pourquoi ils ont fait ça? Parce que auparavant, en se promenant, en réalisant leurs grands travaux, leurs grands exploits, ils ont croisé une jeune fille qui dansait dans un temple 10 ou 15 ans, et puis bah, ils l'ont kidnappée, hein, et puis après, bah, ils l'ont tirée au dé. Et donc, il y a des tableaux que l'on voit de ces hommes avec des... Ça, je pense que c'est un tableau du 17e ou du 18e, ces hommes avec des plumes sur leur casque, et puis avec en train de lancer des dés, les deux, là, avec nu derrière une jeune fille qui se tient comme ça, qui est un peu rouge d'émotion et enfin, de crainte. Et voilà, ils sont en train de les tirer au dés. En fait, c'était ça qui était le plus passionnant dans le texte, c'était de redonner des images qui étaient des images souvent des tableaux, mais aussi des références à d'autres textes ou à d'autres sources qu'il faut chercher un tout petit peu plus loin que les livres, juste que le dictionnaire de la mythologie par exemple, et puis voilà, d'alimenter en fait. Après, il y a dans les sources, il y a aussi se dire forcément de regarder la vie de Racine, c'est aussi parce que quand d'un seul coup, moi, évidemment, chacun tire son fil, hein, moi j'ai mon fil rouge, je l'ai tiré par rapport au rapport de la femme et de la femme dans un système, mais quand on tire comme ça les fils, excusez-moi, là je suis en train de... Je parle un peu plus parce que je ne me rappelle plus ce que je voulais dire. J'essaye de meubler, mais je vais pas réussir à jouer trop longtemps. Ouais, c'était par rapport, je vous ai dit, par rapport à ces... Oui, c'est ça, rechercher la vie dans la vie de Racine aussi. Et Racine, en fait, je me dis, mais comment ce type, il a écrit tout ça quand même, enfin tout ça, tout ce qu'il est en train de dire sur la place de la femme, sur son rapport à la fidélité, sur son rapport à l'amour, sur qu'est-ce que c'est qu'aimer et c'est quoi une femme et qu'est-ce qu'elle a le droit de faire, une femme qui aime, et dans quel état elle a le droit de se mettre, et quels mots, une fois que les mots ont commencé à sortir de sa bouche, quels sont les mots qu'elle se permet de dire. Je m'invente une petite histoire peut-être de Racine, mais je me dis, Racine, après Phèdre, il a écrit Esther et Athalie, il est rentré dans un autre cycle qui est un cycle religieux, enfin il est devenu l'historiographe, le biographe du roi, il a tout a brûlé d'ailleurs, enfin bon, il a voilà, il est rentré et finalement puis il s'est marié, il a eu 7 enfants. Avant, il était avec il a vécu notamment une grande histoire avec une comédienne, avec la Champmêlée, pour qui il a écrit ce texte. C'est-à-dire que pour une comédienne, voilà, c'est un vrai texte dans ses mains. Il n'y en a pas non plus tant que ça, des textes de cette dimension-là pour des femmes. Et voilà, je me dis, c'est une forme d'adieu au théâtre. Donc ça aussi, ça me nourrit, et ça me nourrit quand... Phèdre va dire « Soleil, je viens te voir pour la dernière fois ». C'est aussi Racine qui dit au revoir au théâtre et qui dit au revoir à la lumière du théâtre. Et d'un seul coup, de cette lumière qui à laquelle il n'était pas avec des projecteurs là, mais enfin, à la lumière du théâtre, d'un seul coup, ça se met à m'interroger sur qu'est-ce que... Bon, ça fait partie de mes préoccupations permanentes, mais quel est le rapport de la scène et de la salle? Qu'est-ce qui est face à un comédien qui joue face à une salle? C'est cet espace totalement sombre, totalement noir. Comment être ensemble? Alors c'est pas une dernière fois. Je pourrais encore mettre en scène quelques temps si le temps le permet. Mais enfin voilà, en fait, on fait un petit peu feu de tout bois, quoi. Tout devient sens, et puis tout devient sens dans son propre sens.
Ouais, peut-être. En
fait, c'est marrant parce qu'effectivement, on a beaucoup parlé du fait que c'était la dernière tragédie de Racine et que c'était une manière pour Racine de dire adieu au théâtre.
Ça, c'est, excuse-moi, c'est contestable.
Non. Moi, je sais bien. Mais que, en fait, alors, pardon, moi, je rebondis sur un point peut-être qui va avec le parcours d'Anne Laurier-Joie. C'est qu'en fait, comme vous savez tous, n'est-ce pas, la première tragédie de Corneille, c'est une Médée. Et la dernière tragédie profane de Racine, c'est Phèdre, dans laquelle, et au moment de disparaître, Phèdre évoque ce poison qu'elle a pris dans Médée. Et donc, effectivement, il y a probablement aussi une manière de réécrire, en fait, un peu la même histoire entre Phèdre et Médée, d'une certaine façon, mais de la réécrire autrement, avec d'autres procédés. Et alors, effectivement, c'est probablement que la question de la langue qui est un vrai enjeu, parce qu'en fait, c'est paradoxalement une tragédie où il n'y a quasiment pas d'effet spectaculaire, et peut-être qu'on va reparler dans votre mise en scène. Et puis, il y a une autre chose dont on peut peut-être parler, c'est la question du... Vous avez évoqué Thésée. Et effectivement, on a toutes été, enfin, toutes les trois, été très frappées du traitement de Thésée, qui était un Thésée un peu déshéroïsé, pourrait-on dire, et qui cessait d'être un monsieur galant et un peu benêt, peut-être, pour devenir, effectivement, un personnage violent. Il y a la scène, par exemple, où il brutalise un homme, qui est effectivement quelque chose... qui est un apport de la mise en scène et qui est une manière de se raconter aussi un Thésée autre, un Thésée qui revendique sa brutalité, qui revendique une manière d'être sexuellement agressif, pourrait-on dire. Et ça nous a semblé quelque chose de tout à fait intéressant et qui venait contrer, je ne sais pas ce qu'on pense Delphine, mais une lecture peut-être un peu galante de la pièce qui a pu aussi avoir lieu pendant longtemps et qui allait dans le sens justement d'une patrimonialisation de Racine, notre maître à tous, avec cette pièce délicate, bien séante, sensible, qui plaisait, qui pouvait plaire. Et manifestement, la mise en scène que vous avez peut-être pour une grande partie de votre entrevue propose un Thésée qu'on ne voudrait pas pour Marie.
Ah ouais,
ni pour père.
Ni pour père d'ailleurs, ni pour beau-père d'ailleurs, ni pour père putatif quand on est arrivé, enfin dont on ne voudrait pas en fait, du tout.
Je me suis fait comprendre. C'était assez drôle, même quand je disais à Olivier, ah oui, alors là, tu joues le connard. Alors, pour lui, c'était pas forcément évident. Je dis, de toute façon, je peux pas voir ce personnage-là autrement que comme ça. Je peux pas, je ne sais pas comment on peut le lire autrement que comme ça. Tout dans sa langue dit ça. Enfin, tout est ça. Et des fois, enfin bon, après c'est juste moi qui le dis, hein. Quelqu'un d'autre dirait autre chose, mais par exemple aussi, alors effectivement il y a Thésée, mais il y a aussi Aricie, ce personnage-là, c'est un personnage extraordinaire pour moi parce que c'est notre avenir. C'est en fait, elle a des fois j'ai pu voir Aricie représentée soit comme une jeune fille pleurante, soit comme une jeune fille amoureuse, mais juste quand on regarde sa langue, quand on, par exemple, on prend le champ sémantique de la guerre, sa langue n'est que guerrière. Tout est aimer l'autre, c'est le réduire, c'est le mettre à genoux, enfin avec la violence de mettre à genoux. Et en fait, bon après, des fois on se trompe, hein, je sais pas, mais en tout cas j'ai l'impression que toute la pièce m'indiquait ça. Toute la pièce m'indiquait ses parcours, c'est le parcours de Thésée, le parcours d'Aricie et bon, Thésée on peut tout reprendre depuis le début, mais c'est vrai que là c'est pas. Et puis juste on prend son histoire et puis on regarde, enfin comment. Comment faire de Thésée vraiment un héros ? Enfin, c'est ça aussi qui est touchant aussi, c'est que il est aussi un héros. Enfin, c'est cette interrogation-là, c'est-à-dire, voilà, il aide Athènes, il aide l'Attique, mais il faut qu'est-ce qu'on est prêt à faire nous parfois. Dans la salle, étant identifié au peuple d'Athènes, pour on est prêt à admettre quoi de nos dirigeants.
Oui, peut-être revenir sur Thésée. Vous avez tout à l'heure évoqué l'exemplaire annoté par Racine d'Euripide.
On a aussi un exemplaire de la Poétique d'Aristote à noter, la Racine. C'est évidemment très émouvant. Et je me demande s'il n'y a pas une autre lecture que celle du Thésée Galant avec laquelle vous êtes entré en discussion. Ce serait plutôt la lecture du Thésée aristotélicien, c'est-à-dire bien séant, cohérent. Le roi ne peut se conduire que de façon digne. Or, vous l'avez montré très indigne, vous l'avez construit de façon qui nous apparaisse comme proprement indigne. Et je me demande si ce n'est pas une façon de montrer à quel point Racine est capable de travailler, pas de manière polémique du tout, mais de façon très subtile avec ses sources, justement, y compris les sources qui font le plus figure d'autorité et à l'aune desquelles il est censé être jugé par ses propres contemporains et qu'il en renouvelle vraiment de l'intérieur. Donc, ça m'avait aussi beaucoup frappé. Quand il se retrouve devant Hippolyte, Hippolyte se défend par la cohérence de son caractère. Que
moi, j'ai parfois représenté aussi Thésée comme quelqu'un de tout à fait magnifique. Enfin, on peut très vite succomber au charme. C'est ça qui est. Et puis j'ai vu aussi.
C'est la dignité royale.
Oui, j'ai vu aussi Hippolyte, que pour moi c'était évident que Thésée allait battre Hippolyte, comme c'était évident que Thésée battait Œnone, et comme c'était évident que Thésée battait sa femme. Enfin, un mec qui tape. C'était. Mais parfois on le voit. Effectivement, quand il est avec ce même texte, on peut le voir aussi différemment. Donc je prétends rien.
Non, mais c'est ce que vous avez dit est extrêmement éloquent. Et votre attention à la langue, je pense qu'elle est très instructive pour tout le monde. On ne peut pas traiter ce théâtre-là, parce que c'est du théâtre, autrement que par le biais de la langue. Et ça n'est pas du tout contradictoire avec la dimension de performance qui est vraiment comprise dans le texte. C'est-à-dire qu'on a, dans les interprétations de Racine, on a souvent opposé deux écoles. L'école Racine est un poète et l'école Racine est un dramaturge. Vous venez de nous dire que c'était un petit peu contre-productif et absurde de voir les choses de façon aussi clivée. Moi, je serais plutôt d'accord avec vous. Et d'ailleurs, il y a une expression qui m'avait énormément frappée à propos d'Hippolyte, dans votre mise en scène, parce que vous l'avez fait sonner, cette expression, c'est Hippolyte qui est réduit à un corps défiguré. En Thésée, c'est aussi celui qui défigure. En tout cas, ce mot m'a frappé hier soir.
Ouais, il y en a quelques-uns. S'il y en a quelques-uns qui sont même dans les reines embarrassés, le fait d'être. Ça, c'est pour sa mort, mais oui, il y a plein de mots comme ça qui sont ressortis. Ça, c'est vraiment, ça fait partie du travail, quoi. C'est, il y a tout un travail à la table, là qui dure. Moi, j'ai besoin vraiment de ce travail-là assez longtemps pour qu'on soit d'accord tous ensemble, toute l'équipe, de qu'est-ce qu'on est en train de raconter. Moi, c'est la partie où je vais parler le plus, quoi. Qu'est-ce qui m'intéresse et qu'est-ce qu'on va raconter ensemble. Et puis aussi, comment dire ce texte. Enfin bon. Voilà, et ça, c'est vraiment le moment où, d'un seul coup, à la table, on dit « t'entends ce mot-là » et comment ce mot-là aussi résonne avec tel mot, parce que c'est une sacrée construction quand même sévère. Donc, comment le... Parce que c'est le faire sonner quand on décide que c'est ce mot-là qui sonnera, et puis c'est aussi décider que ce sera... dans l'ensemble d'un parcours du personnage, on va dire. Voilà, comme Hippolyte et Arissi, où est-ce qu'ils en sont tous les deux de leur animalité, de leur brutalité, et qui, eux, d'un seul coup, parce que c'est deux guerriers tous les deux élevé dans les bois, hein, elle pareil que lui, et quand ils vont d'un seul coup avoir les corps à proximité, comment, comment des corps, quand lui dit qu'il ne connaît pas le langage de l'amour, comment le corps va se bouger à ce moment-là. Donc déjà, quand on est en train de travailler à la table, on inscrit déjà comment le corps bougera.
C'est précisément la question qu'on allait vous poser dans la suite, hein, ce travail sur les corps, sur une forme, ça nous a frappé aussi peut-être de chorégraphie dans l'organisation des corps, la manière dont le mouvement des corps, alors on parlait de géométrie, je ne sais pas si c'est le bon mot, vous nous direz, mais le travail sur le plateau de jeu, les diagonales, les lignes, les façons publiques, comment cette structuration de l'espace a participé aussi pour vous à la représentation des conflits dont on parlait justement précisément, la confrontation des personnages. Enfin, il y a peut-être deux questions en une là en l'occurrence, mais
en fait dans le premier travail, dans le travail de travail solitaire, mes 3 ans toute seule face au texte, c'est 3 ans aussi pendant lesquels je vais dessiner, je vais faire plein de, dès l'instant où je sais que ça va être sur un rectangle, plein de points qui vont passer, enfin tout ça ça se structure beaucoup par rapport à ce qui est dit. Alors il fallait aussi que, mais ça c'était là tout de suite l'idée de que les rôles, les personnages soit tout le temps présent autour du plateau, et donc forcément ça trace forcément, et puis ensuite je les dessine, je sais pas dessiner, donc je fais juste des carrés, des points, des ronds et des flèches, et en fait c'est un travail solitaire, c'est un travail vraiment sans les corps pour de vrai, et puis je les affiche sur un mur, et puis je regarde le mouvement de ça, quoi. Qu'est-ce que ça, comment ça se représente. C'est un peu, il y a un texte qui a été très important pour moi, c'est un texte de Bernard Dort qui est dans Le spectateur en dialogue, la partie La pratique du spectateur, où Dort raconte, ça s'appelle Le livre au théâtre, et lui il dit qu'il vient toujours au théâtre avec le livre de la pièce. Vous pouvez juste imaginer les comédiens, le mec qui se met au premier rang, Bernard Dort avec son livre, et il ouvre le livre quand la représentation commence. Mais il dit, en fait, je ne peux absolument pas lire ce qui est écrit, il n'y a pas assez de lumière. Par contre, ce que je vois, c'est la structure, c'est le dessin des mots sur la page, et comment le noir se détache sur le blanc, et qu'est-ce que ça produit. Et en fait, très souvent, ayant mis tout ça au mur, ayant mis en dessous les scènes qui correspondent, je fais comme ça, j'enlève mes lunettes et puis je vois comment ça se dessine, quoi. Donc il y a vraiment un travail comme ça de réflexion, et puis après c'est ce travail-là que je vais proposer aux comédiens et que je dois être absolument prête à gommer et à... mais si je gomme, je dois comprendre pourquoi je gomme, jamais je dois faire un faux pas, je dois revenir à ce que je voulais pour voir si effectivement, et comment ça s'enclenche avec ce qu'il y a avant, comment ça s'enclenche avec ce qu'il y a après, comment tout ça avance. Mais c'est pour tous les textes. Bon, en fait, j'ai été élevée avec Pérec. Et quand on est élevé avec Pérec, on est habitué à compter les mots. Enfin, je compte les mots, hein. Là par exemple, ce qui est extraordinaire dans Fèvre, c'est que le vers central, c'est votre mari est vivant. C'est dingue, quoi. Je me dis, il est génial. Et tout est comme ça, on prend, vas-y, attends, le tiers du quart, on arrive à quoi? Paf, c'est ça. C'est comme Pérec. C'est des mathématiques. Et ça, alors c'est de la géométrie parce que c'est dans l'espace, mais c'est des mathématiques dans la construction. Et alors c'est quand même très très jubilatoire de pouvoir travailler avec quelqu'un qui a absolument la conscience de son acte comme ça, parce que en fait mon acte touche le sien, quoi. J'essaye de me mettre au plus près et que ensemble on fasse de la musique.
Pas
personnes. Alors, vous allez pouvoir m'éclairer. Parce que je me suis posé une question hier soir sur la vidéo 4, sur le début de la vidéo 4. La scène 2 avec la grande confrontation entre Thésée et Hippolyte, qui est un crescendo d'agressivité et de violence. Personnellement, je me suis sentie très mal dans cet acte 4. Pas à cause de vous, hein, mais à cause de ce que vous faisiez ressentir du texte. Et à cette grande confrontation succède la scène 3. Je me suis dit, mais c'est bizarre. Cette scène 3, je vais vérifier en entrant chez moi, c'est un monologue. C'est le monologue de Thésée. Or, hier soir, c'était pas un monologue. Il m'a semblé que c'était devenu un aparté, puisque Hippolyte était sur scène au moment où son père le condamne à mort et appelle Neptune pour le venger. Est-ce que vous pourriez revenir sur ce choix et nous dire en quoi il rencontre pour vous Racine, finalement?
Ça me semblait... Il y a quelques moments dans le texte où des personnages sont inscrits comme présents et sont absents, ou le contraire. Et ça me permet juste de jouer avec la violence. Et là, qu'il entende... Alors, c'est aussi un jeu avec les... que j'appelle les chambres, parce qu'on est dans une antichambre, et il y a trois chambres autour qui sont avec des murs un peu... voilà, quand la porte est fermée, on peut insulter quelqu'un qui est de l'autre côté de la porte. Si la porte est ouverte, c'est autre chose qui se passe. Et puis, petit à petit, ce qui m'intéressait, c'était que finalement, l'espace s'ouvre. La lumière qui est assez précise sur le rectangle, petit à petit, s'ouvre et qu'on puisse aussi se parler comme ça. Donc, il y a des moments, des personnages qui sont présents tout en étant absents. Enfin, ça dialogue d'une certaine façon. Là, c'est vrai que le fils entende la violence du père. Et même hier, je me suis dit que ça devrait aller plus loin, en fait, parce que ce Neptune, le rapport aux dieux dans la pièce, que ce soit Neptune ou Vénus, c'est un rapport quand même particulier qui, moi, à chaque fois, je me suis dit, parlons-nous plutôt, cherchons notre Vénus, notre Neptune en nous, voyons à quel endroit il se trouve, alors plutôt que de faire... ça, le construire comme ça, là ça me refait pareil. Je suis fatiguée.
On vous suit très bien.
Ah, ouais, voilà. Donc, pourquoi je me suis mise à parler des dieux? Je parlais de quoi?
Parce que c'est le gros sujet qu'on allait aborder après.
Ce qui n'était absolument pas préparé.
On va croire qu'on s'est concerté.
Non, je ne sais pas si j'ai répondu, je me rappelle plus ce que vous... Ah oui, c'est ça, par rapport à la scène.
Le choix de mettre Hippolyte.
C'est que hier, je me suis dit, mais en fait, il parle à Neptune, mais il devrait peut-être aussi en profiter pour le regarder. Parce que quand vous parliez de géométrie, j'ai fait aussi sur la pièce, et ça demande un travail... en fait, il faut être attentif à ça, parce qu'il y a le comédien, les comédiens, ils ont quand même le désir de projeter, de parler, d'avancer, et puis de parler. Et puis à chaque fois, je leur ai demandé d'être très très précis dans leur regard. C'est-à-dire que toujours, ils doivent regarder leur interlocuteur. Il n'y a pas de flou possible. Et donc, ça trace des lignes. Et là, je me suis dit, en fait, il pourrait regarder son fils en disant tout ça. Ce serait la condamnation. Je vais peut-être faire ça ce soir. Non, mais c'est ça. Ça, c'est génial de travailler avec des comédiens, avec du vivant. Parce qu'on peut leur dire un tout petit truc. Je dis, tiens, essaye ça. Alors là, ça devient pour lui le sujet de la soirée. Et puis, des fois, je le vois même pas. T'as vu,
super. C'est une modification très, très signifiante.
Oui, ça, je pense que je vais peut-être... Mais ça va être encore pire. Hein, parce que c'est déjà... Alors, ce qui est bien, c'est que les comédiens, c'est un père et un fils qui jouent ensemble, un vrai père et un vrai fils. Donc, en fait, ils n'ont pas du tout de... Ils se sont toujours amusés ensemble à la bagarre. Ça, on fait la bagarre sur le tapis et ils font la bagarre. Et donc, en fait, ils ont un vrai plaisir à se taper, quoi. Parce que c'est du pour de faux, c'est ça le vrai théâtre, donc c'est assez pratique.
l'amertume, là, ils ne sont pas en contact. C'est peut-être encore plus violent, justement.
Ah oui, ah oui, alors vous me déconseillez mon... Non, parce que je ne veux pas qu'ils soient en contact, mais je me disais, si d'un seul coup, il le regardait, parce qu'il lui dit quand même des choses abominables, il lui dit qu'il va le défigurer. Ouais.
Je sais pas, il manque un temps.
Pour rester sur la question à la divinité, il y a une scène qui nous a beaucoup frappé, pour faire peut-être le parallèle avec Neptune, c'est l'invocation à Vénus de Phèdre et la posture qu'elle adopte à ce moment-là. Désolée pour ceux qui n'ont pas eu la pièce, mais elle se couche à plat ventre sur la dalle d'Hippolyte pour prononcer ce monologue. Et la question qu'on se pose, c'est comment vous avez pensé ce rapport Phèdre-Vénus, hein, qui a aussi fait couler beaucoup d'encre et qui a connu beaucoup d'interprétations. Vous avez commencé à répondre tout à l'heure en disant que c'était une Vénus intériorisée.
Là, ça n'a pas été très compliqué, en fait, parce que chose longue qui se traîne depuis qui au début est la tribu d'Hippolyte, puis passe dans les mains de Phèdre, puis est récupérée par Thésée. Ce qui était important, c'était que pour moi ce soit le seul accessoire absolument de la pièce, et en fait, qu'elle s'allonge dessus comme elle lui arrache, comme elle lui prend cet objet qui est important pour elle, qu'elle se couche dessus, ça semblait totalement évident. Et d'ailleurs, ça a été aussi totalement évident pour Anna, parce que moi, c'était des choses qui étaient dans mes carnets depuis le début. Et elle l'a posé, elle s'est allongée dessus. Enfin, c'était clair. Après, ce désir, ce qui m'intéressait aussi, moi, c'était de voir une femme en tailleur-pantalon allongée sur le ventre au milieu d'un plateau et remontant sa jambe gauche. En fait, parce que c'est une position que... Là, en fait, ça touche à des zones d'anciens spectacles. Tous les spectacles, ils se donnent la main. Mais là, je pourrais parler encore de l'augmentation, mais d'une forme... de la forme qui était pour les grands plateaux, où Anne Girouard, qui jouait le personnage, le pendant féminin d'Olivier Dutillois, qui joue la Thésée, elle était en costume comme ça, ce qui est vraiment pour moi un costume de travail, allongée sur la moquette. Et c'est à la fois une position de détente, une position sexuelle, mais aussi une position d'épuisement et de... On pourrait passer un trait rouge autour et on aurait un corps mort. Alors maintenant, je réponds pas vraiment à mon rapport à Vénus, mais
de quoi Vénus est-elle le nom?
Je dirais que Vénus est le nom de son désir, enfin de l'intimité de son désir, de notre désir, parce que ce qui m'intéressait aussi, je ne sais pas si je vous l'ai dit, je ne sais plus ce que je dis tout à l'heure, c'est aussi montrer ce qu'on ne montre pas, quoi. On ne montrait pas une femme aimante et dans ce désir de l'autre dans l'écriture, c'est aussi le montrer dans son par l'incarnation, quoi, cette possession du désir, enfin et puis ce que c'est que montrer la jalousie aussi, pour moi c'était important, c'est important. Ben là, on n'est pas belle quand on aime, et c'est très bien, quoi, et c'est une revendication, quoi, c'est la revendication de se mettre dans cet état, de se morver dessus, d'être capable de prendre n'importe quoi pour un objet contendant, d'avoir envie que l'autre meure, d'avoir envie de tuer. Enfin, Et cette Vénus, c'est tout ça, quoi. C'est le désir, c'est pour moi un désir féminin à regarder en face et qui n'est pas de l'ordre du monstrueux, qui est de l'ordre. C'est ça. C'est comme ça, une femme, enfin un homme aussi, hein, on est pareil. On est fou d'amour. En tout cas, on peut le voir, on peut le regarder.
Peut-être la partie qui nous a aussi beaucoup frappé, c'est finalement cette lecture que vous proposez d'Aricie. Dans le fond, Aricie n'est plus simplement l'utilité d'Hippolyte pour que Hippolyte soit un peu moins misogyne, un peu plus sympathique, et on lui donne hop une petite copine, comme ça fait une utilité 17e. C'était vraiment. Aricie existe très fort, elle existe aussi probablement avec vos souvenirs de tragédie antique quand elle dit qu'elle est captive, qu'elle est en exil, et qu'en fait elle est déchue, et enfin. Moi, je trouvais qu'on se souvenait un peu des Troyennes, mais qui est une pièce qui m'est chère.
Ah oui, parce qu'elle nous dit, elle dit un truc magnifique quand elle dit que les sillons ont bu le sang de ses frères, la terre a bu.
Ouais. Ouais, non, mais tout ça, c'est un côté très, très, très captive en l'occurrence, et le sort des captives n'est effectivement pas enviable. Et de fait, Aricie, dans la mécène que vous proposez. Elle est droite, elle a un discours politique, elle revendique un énoncé politique, un énoncé maîtrisé. Alors il y a peut-être plusieurs choses qui nous ont frappées par-delà. Donc je divulgage pour parler en bon français, mais par-delà l'image finale. Mais c'est peut-être d'abord le fait que, enfin, il y a deux choses. Peut-être la première, c'est quand elle apprend que Thésée est mort, elle est très contente et elle le montre de manière très explicite. Et ça lui importe, si je puis dire. C'est un enjeu à la fois politique, à la fois probablement affectif aussi, puisqu'il a massacré toute sa famille, donc on comprend bien qu'elle puisse être contente qu'il disparaisse. Et puis il y a une autre chose qui nous a aussi frappé, c'est que Aricie se tient avec une grande droiture physiquement. Je dirais, enfin, elle a une manière d'être, d'exister sur le plateau qui n'est pas petite chose fragile, mais qui au contraire de se tenir avec une identité, je ne sais pas dire un ethos, mais enfin c'est un peu ça. Et je ne sais pas ce que vous en pensez.
Bah oui, c'est tout à fait ça. Enfin, Liora, dès que je l'ai vue, dès que je l'ai rencontrée, je voudrais dire aux élèves que je l'ai rencontrée, qu'elle vient de l'école de la Comédie de Saint-Étienne, que je l'ai rencontrée pour une audition, pour un spectacle où je ne l'ai pas prise. Ça, c'est pour donner l'espoir pour la suite. Mais elle était là, et quand pour moi, Phèdre est arrivée, c'était forcément elle, parce que Liora, c'est cette tenue, c'est cette beauté blonde, enfin, c'est c'était forcément elle, Aricie. Et effectivement, le rôle est. Enfin, tout à l'heure, vous disiez pour que Hippolyte soit un peu moins misogyne, mais je trouve ça génial aussi comment Aricie, parfois, je crois que c'est deux fois, elle apprend à Hippolyte ce que c'est qu'une femme et comment il faut se comporter avec une femme. Et parce que quand il lui dit, voilà, maintenant je vous donne à vous l'Attique et votre bien, moi je vais rester à Trézène, le petit Phèdre, ils vont partir en Crète. Donc je vous donne l'Attique. Elle lui dit, mais si vous me, enfin, le fait que vous me le donniez, ça veut dire que ça ne m'appartient pas. Enfin, c'est une supériorité. Cette réplique est incroyable. Et lui, juste après, va dire, je vous donne. Et il s'arrête. Enfin, je vous rends. Et du coup, il a tout compris. Il a compris très vite. Et ça, c'est quand même assez beau de voir ce que pourrait être. Une histoire construite sur l'égalité, quoi. C'est-à-dire que, ok, il a cette éducation-là, il est déjà quand même bien avancé pour remettre en cause son éducation, mais derrière, elle aussi lui renvoie des choses, lui lui en renvoie. Et ce qui m'intéressait aussi beaucoup, c'était, bon, outre l'image de la fin, mais peut-être qu'on peut ne pas en parler, mais c'est que Aricie, quand Théramène en parle, il parle du jeune fille éploré qui a pris, qui souffre atrocement, et que quand elle arrive, elle avance, quoi. Elle avance, elle peut continuer à avancer. Et certainement que c'est elle qui dirige maintenant, quoi. Le vieux, là, elle l'a.
Alors, de fait, c'est un peu la question justement du dernier tableau, de la pièce, enfin pas l'avant-dernier tableau peut-être, mais justement ce geste de la main que fait Arissi à la fin, qu'en fait on a interprété entre nous de différentes façons, enfin on s'est interrogé, ouais. Et donc dans le fond, à la fin, on ne peut pas spoiler pour nos camarades, mais en même temps, on serait assez content de savoir ce que vous avez voulu en faire, parce qu'en fait, nous, on l'a probablement plus vu comme un geste politique de refus ou de manière de s'émanciper de la tutelle paternelle, paternaliste de Thésée, qu'un geste de refus d'une avance sexuelle. Mais peut-être avons-nous politisé à tort cette réception, ce tableau.
Là, c'est drôle parce que, en fait, c'est les deux mêlés.
On est content.
En fait, c'est quand il avance. Moi, j'ai regardé plein de tutos d'autodéfense. On attrape la main, paf, on balance pour se défendre dans la rue. C'était difficile. Et en fait, le geste, là, c'est un geste qui va. Parce que. C'est pas facile d'attraper la main de quelqu'un comme ça. Donc en fait, le geste allait vers ses fesses et puis est remonté vers sa taille. Donc du coup, ce qui me plaît dans ce que vous dites, c'est que c'est. Voilà, on doute un peu, quoi. Mais c'était. Maintenant, c'est vers la taille, c'est plus haut. Pour laisser supposer que ça pouvait être plus bas. Et en fait, c'est s'émanciper, enfin, c'est en tout cas, stop.
Peut-être qu'on peut passer à des questions autour de vos choix de scénographie, même si elles ont déjà été abordées de manière indirecte. Hein, donc. Nos impressions, c'est effectivement ce choix d'une scène très épurée. Trois canapés qui figurent chambre anti-chambre, vous l'avez dit. Un plateau de jeu très géométrique. Le choix de cette dominante noire, costume, lumière. Enfin, il y a beaucoup à dire, je pense, sur le choix des lumières. On s'interrogeait sur vos références éventuelles. Travail que vous avez pu effectuer sur la lumière. Voilà. Donc comment est-ce qu'on pourrait aborder cette question-là de la scénographie? On a évoqué tout à l'heure la constante présence des personnages sur scène, hein, qui crée aussi, pour eux j'imagine, mais aussi pour le spectateur, une forme de tension permanente. Voilà. Est-ce qu'on peut aborder ces questions?
Alors oui, sur la présence, effectivement, c'est-à-dire que la tragédie, elle est commencée depuis longtemps, enfin, elle est commencée depuis des siècles, et eux sont là et vont jouer cette partie-là de ce moment-là, de la violence, de cette violence-là, maintenant. Et donc, c'est ce que vous dites aussi, c'est que, du coup, ça laisse le comédien, il ne fait pas des entrées des sorties, parce que cette pièce, si on la monte... avec des entrées et des sorties, c'est l'enfer, quoi. Faut mettre des portes, ça claque, ça rappelle un autre type de drame qui m'intéresse pas beaucoup a priori. Donc c'était vraiment je me suis dit non, pas de porte, on peut pas rentrer et sortir comme ça tout le temps. Donc restons là, ça me permet, parce que ça c'est un petit vice que j'ai, c'est-à-dire que je regarde jamais au bon endroit, et que je me suis dit tiens, le spectateur, quand Phèdre va parler d'Hippolyte, plutôt que de rester sur Phèdre en train de dire, il peut aller regarder Hippolyte. Et on peut avoir une image déplacée, quoi. On peut se dire, c'est plutôt un texte déplacé, puisqu'on va sur une autre image que la bouche du comédien. Ça, j'ai vraiment envie de faire ça aussi, quand on parle de la douleur de Phèdre, de pouvoir la voir au loin dans cette douleur. Enfin, voilà. Qu'est-ce que je voulais dire aussi sur ces...
Si, alors peut-être pour rebondir sur ça, il y a une chose qui est frappante, c'est que vous n'utilisez à aucun moment les coulisses. En fait, dans le fond, personne ne sort jamais du plateau, et quand on sort du plateau, on sort par la salle.
Ben, on sort pour mourir.
On tente de sortir, et puis en fait, on aurait mieux fait de sortir parce qu'on serait pas mort. Mais avec Hippolyte au début. Mais c'est vrai qu'en fait, d'une certaine manière, par certains côtés, il y a une théâtralité qui est très revendiquée, et en même temps, le fait que tout le monde soit sur le plateau, enfin, à vue de regard des spectateurs tout le temps, en fait, crée une sorte de tension, effectivement, et crée un autre espace théâtral, en fait.
Oui, puis ce qui m'intéressait aussi, c'était qu'une fois que tout le monde part, tout le monde meurt, tout le monde fuit, il ne reste plus rien, il ne reste plus que le couple. Et c'est quand même ça qui m'intéresse aussi dans cette pièce, c'est de parler du couple. Et on a l'espace qui s'est ouvert, et on n'a plus que ces canapés qui deviennent quand même des canapés un peu, pas forcément bourgeois, mais enfin des canapés d'un salon installé, sauf qu'ils sont à 8 mètres l'un de l'autre, et d'un seul coup on a on n'a plus que deux en train de se dire toutes les saloperies possibles, comme dans Scène de la vie conjugale, ou enfin un truc au-dessus, parce qu'elle va rouvrir tout de suite, puis voilà. Mais c'était intéressant aussi dans le vide, ce que ça produisait, quoi. Et puis c'est pouvoir parler, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est pouvoir parler à l'autre ou de l'autre en étant tourné vers lui, alors que l'autre ne réagit pas, puisqu'il est censé être dans une pièce à côté. Bon, ça causait quelques petits... Alors ça m'a vraiment causé des difficultés en me disant, mais attends, comment il a su, il est allé au port, il a appris la mort de son père par des navires qui revenaient. Là, les spectateurs vont rien comprendre parce qu'en fait, il est toujours là, sauf que personne s'en rend compte, donc ça, c'est très bien. Et puis aussi, c'était important pour moi que ce soit un spectacle du noir au noir, quoi, qu'on ait à la fois, ce que je vous disais, la salle noire, la scène noire, et que qui est ces... j'ai rarement pratiqué l'entrée dans la scène, dans la salle. Je sais pas, j'ai rarement fait ça. Et là, c'était vraiment important pour moi parce que je voulais vraiment qu'il y ait qu'on soit tous dans le même noir, et que le spectateur, finalement, en tant que peuple d'Athènes, parce que c'est un petit peu comme ça qu'il est, que moi je m'imagine qu'il est présenté par Racine, mais ce peuple est son rôle aussi dans l'acceptation, dans la dénonciation. Enfin voilà, c'est aussi pour ça que j'ai mis Panop dans la salle. Et Panop, en fait, ce qui est très facile, c'est que pas du tout facile pour moi, mais ce qui est très facile, c'est que c'est celle qui voit tout. Ça dit celle qui voit tout. Donc elle a un espèce de rôle comme ça, qui est un peu un rôle de coryphée. En tout cas, elle envoie les informations. C'est aussi un rôle de dramaturge, parce qu'elle envoie des informations en disant, tiens, maintenant je vais te dire que le roi est mort. Qu'est-ce qui se passe sur le plateau? Comment ça fait? Après, je vais te dire que Enon s'est suicidé, puis que l'autre, elle est complètement folle. Alors, du coup, c'est des éléments à chaque fois pour faire rebondir l'action. Donc là, on est vraiment dans le rôle du dramaturge. Après, ce qui était quand j'ai répété, j'ai dit le texte de façon très très à plat, presque au micro. Donc voilà. Il y a un moment, la tragédie, elle est plus forte qu'une idée comme ça, parce que si j'avais coupé quand j'étais en train de, si j'avais coupé le fil dramatique, ça retombait un peu. Donc cette panoplie, elle est petit à petit quand même. Ce qui est relativement intéressant, c'est que ce qu'elle dit, elle le dit, elle est du côté de Phèdre. Elle lui dit au début, faites attention parce que l'autre, là, le fils de l'étrangère, il va prendre le pouvoir. Peut-être la petite, là aussi, elle est dangereuse. Et puis après, elle va dire, c'est pas possible, quoi. Elle marche, elles sont pas irrésolues. Tiens, je sais plus. Elle va dire... forcément elle prend le pouvoir aussi.
Mais peut-être que ce qui je pense aussi que le fait que Panop soit dans le public, alors pour ceux qui n'ont pas vu Panop, elle doit être à peu près au rang, aux deux tiers de la salle.
Ouais,
aller au rang B, mais ouais, le rang B, on ne la voit pas. Donc, il faudrait qu'elle redescende au rang L, mais au rang L, il n'y a plus de place.
Voilà, elle va rester au rang B, la pauvre madame. Mais nous, on était au rang S, donc on l'a bien vu, on était assez contents. Et en fait, Panope, elle se lève, mais elle n'a pas de lumière. Donc en fait, elle reste invisible. D'une certaine manière, elle est essentiellement une voix. Et moi, il m'a semblé que ça modifiait aussi la qualité d'écoute des spectateurs de savoir Panope avec eux. Enfin, que d'une certaine manière, on n'écoute pas tout à fait pareil une fois qu'on se dit qu'on est potentiellement copain avec Panope. Et que, en fait, ça rejoue quelque chose du coryphée, ça rejoue aussi quelque chose, en fait, d'une sorte de dé-17ème-isation, si je puis me permettre, de la tragédie de Racine. Et ça, j'ai trouvé que c'était vachement intéressant de sortir Racine d'une certaine manière de ce dispositif d'écoute du spectateur du 17ème, tel que je me l'imagine, hein, parce que je ne le connais que de loin.
Merci. Je crois qu'il y avait des spectateurs sur la scène.
Oui, mais il n'y a pas le quatrième mur, mais il n'y a pas cette idée qu'on ait une foule qui écoute, alors que dans la tragédie grecque, il n'y a pas de spectateurs sur la scène. Et donc, c'est vrai que ça crée un autre, enfin, je pense, une autre qualité d'écoute. Alors, peut-être qu'on peut aussi revenir sur la question des lumières que vous avez choisies. Parce qu'en fait, c'est des lumières très blanches. Et il me semble que, sauf n'en pas assez.
C'est parce qu'hier, il y avait un peu de problème de lumière.
Ah, ok. Bah, est-ce que pour le coup, le fait que le dernier tableau où on commence à voir des latéraux et qu'il soit de couleur beaucoup plus ocre, c'était volontaire?
Non, si, c'était volontaire. C'était des détails sans doute que je n'ai vu que moi et.
Moi, ouais, j'avais été
assez attentive. Qui est à la régie. Non, si, c'est formidable. Merci quoi, de me dire ça. Bien fou.
Mais est-ce que. Parce qu'en fait, le dernier tableau, on a un éclairage totalement différent, qui fait qu'on comprend d'abord que les canapés n'étaient peut-être pas vraiment noirs. Et on voit, enfin je ne sais pas comment ils sont en vrai, mais en fait ils sont vachement moins noirs dans le dernier tableau. Et puis on voit en fait que la scène a une délimitation au fond, alors qu'avant on était quasiment dans un tableau de Terrel, dans une scénographie de Terrel, et on ne voyait plus le bord de. Enfin on oublie un peu les espaces, ou comme chez Régis. Et là en l'occurrence on retrouve les pendrillons, on découvre que tout est pendrillonné, ce qu'on ne voyait pas forcément de la même façon avant. Et il y a une sorte de lumière qui est faite, si je puis dire. Alors je ne sais pas si on est tous trop éclaircis ou qui est trop éclairci. Enfin, comment ça se joue, cette question de la lumière, sur ce dernier tableau?
C'est que tout est à vue, quoi. En fait, tout est explosé, le couple est explosé, on montre tout. Alors effectivement, les Allemandes sur le côté, c'est jamais très beau, hein, parce que c'est jamais bien tendu. On voit les sources lumineuses aussi, voilà, tout est donné à voir sur ce dernier déchirement. Ça, c'est assez facile comme idée, en fait. Hein.
Ça marche.
Principal, c'est que ça marche. Sinon, la lumière, le travail, il est effectivement c'est un travail de Guillaume Tesson, parce que autant je peux pas m'empêcher de faire la scénographie. Les costumes, mais autant la lumière, c'est vraiment sa partie. Et j'ai rencontré ce créateur lumière sur un spectacle dans lequel il travaillait, et je me suis dit, ce gars-là sait éclairer la nuit, ce qui était incroyable pour moi, parce qu'il y avait des scènes dans le noir et on voyait, je trouvais ça magnifique. Donc on a fait plusieurs spectacles ensemble, et là du coup il retravaille sur éclairer la nuit. Et évidemment, moi, dans ma proposition au début, c'est du noir. Ce qui est important, c'est que le noir soit épais, soit un peu. Par exemple, on peut penser à des tableaux de Soulages où on a différents noirs, différentes matières. C'est pour ça que pour les costumes, on a beaucoup travaillé sur des matières absorbantes ou glissantes. Enfin, il y a ce travail sur les costumes. Et donc, c'est des éléments comme ça qui ont fait que. Travaille sur des choses très très tranchées, très et sans ce qui était intéressant. Enfin, moi je lui ai dit, c'est l'hiver, il fait froid, les corps ont du mal à se révéler, et c'est pas dans une journée. C'est-à-dire qu'on va pas du matin, ce qui est écrit dans la tragédie, jusqu'au soir, mais qu'on essaye de sortir du noir. De différentes façons, ou alors on y plonge. Et ce qui fait qu'il n'y a pas de, il y a pas de cohérence lumineuse. On peut passer d'une scène très éclairée à une scène très sombre. Et c'est vrai qu'il y a peu de doré. Alors après, voilà, c'est ce qui est très difficile aujourd'hui, c'est les couleurs, parce qu'on change aussi de matériel de théâtre en théâtre, et puis on change aussi de matériel dans les théâtres. On travaille avec des LED, et c'est toute une nouvelle façon de travailler aussi pour nous, la lumière. Donc.
Pour prolonger ce qui vient d'être dit, il m'a semblé que, Zoé, tout à l'heure, tu as parlé de 17e-isation. Moi, je parlerais
de redécitalisation.
Non, mais de processus d'abstraction. J'ai eu l'impression que la pièce a été effectivement placée hors historicité. C'était très, très intéressant. Et le noir y contribue, le jeu des lumières aussi, évidemment. Et il y a un mot qui m'est venu pour caractériser la mise en scène. Vous me direz si je me trompe ou si c'est un mot qui vous semble complètement impropre. C'est le mot d'expressionnisme. Il m'a semblé que votre mise en scène, elle faisait ressortir les effets passionnels, pathétiques, émotionnels, parce qu'il y avait un privilège donné aux voix, parce qu'on entendait plus qu'on ne voyait, on ressentait plus qu'on ne réfléchissait. Donc ce mot d'expressionnisme est venu, je ne sais pas si il vous conviendrait.
Bah, j'aime bien, hein. J'aime bien ce que vous dites aussi sur. Parce que les comédiens, c'est aussi effectivement des voix. Et c'est aussi. Enfin, je ne les ai pas choisis pour leur voix, parce que je choisis des camarades de jeu. Mais c'était important pour moi que. Quelle voix allait avec quelle voix. Enfin, c'était. Je l'ai un peu choisi pour leur voix, des fois, comme.
Oui, je crois qu'il y en a une que vous avez quand même choisi pour ça.
Ouais, mais pas que aussi pour son engagement et aussi pour sa.
La voix convenait particulièrement bien qu'à ça.
Non, ben après, on crée autour de cette voix-là aussi, mais la voix des nonnes, et nonnes, c'est une comédienne, Laure Wolf, avec qui je travaille aussi souvent. Voilà, c'était. Peut-être plutôt qu'une autre comédienne que j'aime autant, avec qui je travaille de l'équipe, ben ça va être celle-là, parce qu'effectivement, il y a ce corps-là, il y a cette voix-là. Et je vous remercie d'accepter le son plus que l'image, enfin, que d'accepter que l'image soit parfois sombre, enfin, et que
de se laisser. Un ras de sol. Ouais. Un ras du sol. Mmh. C'est une image très horizontale à plusieurs reprises.
Ouais.
Fédré. Ah, il est très.
Souvent qu'on n'a pas vu la rampe pendant tout le temps.
Ou elle est pliée en deux.
Ah. Ouais.
Je peux parler de Eunone, puisque tendu la verge, c'est un personnage qui m'a beaucoup intriguée hier soir. Parce que Eunone, dans la tradition, c'est quand même une figure maternelle. Alors là, ce n'était pas du tout le cas, ne serait-ce que parce que l'âge des actrices suggérait autre chose. Et puis le jeu très physique, on a parlé d'érotisme tout à l'heure, on n'a pas dit le mot, mais c'était de ça dont on parlait. Moi, j'ai été frappée par la dimension érotique de la relation que vous suggériez entre Phèdre et Eunone. Alors, est-ce que j'ai mal compris? C'est moi. C'est peut-être moi, mais moi, j'ai vu une fusion qui était très suggestive. Une scène de répudiation avant le suicide de Bonne.
En fait, c'est ces histoires d'âge. C'est vrai que Eunone, elle dit qu'elle l'a porté quand elle était, quand Phèdre était bébé, et donc ça impose une certaine, disons, rapport maternel qui, à vrai dire, m'intéresse pas beaucoup parce que je préfère avoir différents. Alors, la mère est aussi une figure du féminin, mais dans cet espace porté par des sentiments, par le désir, par des sentiments érotiques, c'était un peu plus compliqué pour moi d'avoir là une image de mère, de protection, de. Donc, mais cela dit, elles ont 8 ans de différence, et il y a des pays où à 8 ans les petites filles sont déjà des nourrices et vont porter donc le bébé riche. Donc je me suis accrochée comme ça, je me suis dit c'est possible Parce qu'au début, j'avais pas de problème, j'avais carrément viré ces répliques-là. Je m'étais dit, voilà, oh, c'est pas possible, on va pas comprendre, allez, on les emmène. Bon, à chaque fois, je fais ça, je rajoute beaucoup d'accessoires, de décors et tout, j'enlève tout. Par contre, je remets le texte. Alors, ça, c'est à chaque coup comme ça. Mais en fait, la présence des enfants, même si elle est un peu compliquée, alors elle n'est pas compliquée avec Hippolyte, même si parfois on dit son fils, d'un seul coup on se dit, attends, c'est le fils de qui pourquoi on vient de dire son fils? Il faudrait dire le fils de Thésée qui est le... Enfin bon, c'est un tout petit peu compliqué. Il y en a deux qu'on ne voit pas. À un moment, je me suis dit, il va falloir les montrer quand même. Cadmos et son frère qui sont... Mais la présence des enfants, c'est aussi une présence, enfin, c'est quelque chose qui aussi existe dans la pièce. Et Phèdre, les moments où elle souffre aussi beaucoup, c'est les moments où d'un seul coup elle se dit comment ces enfants, qu'est-ce que son nom va laisser, comment ces enfants vont pouvoir vivre ensuite, quoi, avec le crime de leur mère. Quand elle est en train de divaguer, elle va vers eux, elle pleure sur eux, elle les repousse. Enfin, c'est aussi m'aider en ça. Il y a aussi le meurtre de ses enfants. Et du coup, je me suis dit, voilà, il faut laisser ça parce que c'est important. C'est important aussi que Phèdre ait un jour été un petit enfant parce qu'on l'entend. Et alors, là, je voudrais juste dire aussi qu'il y a une image magnifique, c'est du Minotaure qui est dans les bras de sa mère, de Pasiphaé. Et il est comme... il est vraiment tout mignon, il faudrait voir ce truc.
Il est comme ça, et il a sa petite tête de Minotaure et son petit corps de bébé, et il est dans les bras de sa maman.
Donc, tout monstre, un jour, a été un enfant, déjà avec une tête. Mais ça aussi, ça a participé quand j'ai vu, quand j'ai été émue par ce vase, le dessin sur ce vase, ça a participé au fait. Je me dis non, mais voilà, ça fait partie de l'enfant, fait partie, et Phèdre a été une enfant. Alors il y avait un autre bout de question là-dessus,
sur la relation entre
Oui, alors leur relation érotique. Alors. Je sais pas, en fait. Pour moi, c'est une relation de femme à femme. Et dans toute relation, il y a de l'érotisme, que ce soit de femme à femme, de homme à homme, de homme à femme, de femme à homme. Enfin, de toute façon, il y a forcément des choses qui circulent. Donc, je n'ai pas spécialement cherché à travailler sur une relation érotique entre elles. C'est juste une relation de... Pour moi, c'est une relation d'amour, ouais, une relation d'amour, de soutien. Elle ne veut pas qu'elle meure. Elle ne veut pas qu'elle meure pour juste parce que elle ne doit pas mourir. Enfin, moi, j'imagine qu'avec n'importe laquelle de mes quelques copines, je me mettrais dans le même état. Forcément, on se touche, forcément. Ça passe par le corps de l'autre. Ce qui était important pour moi dans les corps, c'est que c'est des corps qui ont quand même du mal à rentrer en contact ensemble. Le texte, il est souvent très tiré, ils sont souvent très loin, mais qu'il y a des moments où forcément ça se rencontre, et ces moments-là, ça fait pas semblant, quoi. Ça se rencontre et ça se fait mal et ça se déchire.
Sur cette question du contact des corps, on retrouve la problématique de l'expressivité du désir et peut-être de ce qu'on disait tout à l'heure d'une forme de stylisation dans les corps, dans les gestes. Je pense en particulier à la scène d'aveu de Phèdre à Hippolyte et la manière dont on a été frappé par à la fois le contact des corps et une gestuelle qui peut paraître inattendue. Hein, je pense à ce geste de Phèdre qui pose sa main sur la tête d'Hippolyte, qui fait tableau en fait, qui reste, qui marque. Donc est-ce que vous avez eu une volonté à certains moments, parce qu'en même temps la pièce passe très vite et on n'est pas du tout dans la pause telle qu'on peut l'imaginer dans une certaine une esthétique théâtrale, ces moments où on s'arrête sur ces gestes, même si ça dure que quelques secondes.
Ça, je pense que c'est aussi un peu comme ça que je vis. C'est-à-dire que je peux m'arrêter dans un geste. Ça peut... Donc, voilà, je pouvais dire aux comédiens, voilà, suspends ça, quoi. Suspends... Mais, par exemple, cette scène-là, dès l'instant où lui s'agenouillait devant elle, quand il lui dit, mais j'ai... gamin, j'ai jamais dit ça, enfin, tu prends tes désirs pour des réalités, lui, excusez-moi, donc forcément il est agenouillé devant elle est au-dessus de lui, forcément, parlant de son désir, elle allait amener sa main vers sa tête, et forcément lui se dégageant, c'était pas possible que ça se passe autrement. Après, ce qui se passe, c'est que je fige ça. Parce que pour moi, il est question de sidération. Parce que je me dis, mais qu'est-ce qu'il fout, Hippolyte, quoi. Enfin, c'est quand même assez facile de lui dire, mais attends, ce qu'il va lui dire après, attends, enfin je sais pas, ça interroge quand même. Et soit il est dans l'intérêt de ce qu'elle est en train de lui dire, il trouve ça sympa, et finalement, il peut peut-être être du côté de son père pour le coup, soit... soit il ne peut rien faire, et c'est le parti pris que j'ai pris, c'est-à-dire que la sidération, on ne peut rien faire. Et la scène d'après, quand il va dire que son corps le dégoûte lui-même, enfin là, d'un seul coup, je me dis, ben voilà, on y est, enfin, c'est l'homme violé, c'est le non-consentement, c'est là. Et c'est vrai que c'est assez émouvant ce que Anna et Ulysse font à ce moment-là. C'est que, en fait, Ulysse est vraiment suspendu, quoi. Et je ne sais pas si on l'entend, mais il a un truc qui est terrible, c'est qu'il a un souffle qui est de l'ordre du gémissement. Pour moi, c'est terrible, quoi. Voilà, et puis à un moment, elle relâche un peu son étreinte et il peut lui foncer dessus, mais enfin, il peut l'empêcher de parler, puisque c'est ce qui est dangereux avec Phèdre, c'est la parole. Mais.
Peut-être, alors si, en fait, vous avez dit qu'au départ c'était une langue qui était Racine, et alors. On a toutes des idées un peu sur la langue de Racine et sur Phèdre et le langage. Enfin, mais peut-être une des choses qui nous a le plus frappé, et je ne sais pas si le public y a été sensible, mais nous, en tant que prof de lettres, ça nous a frappé que le récit de Théramène était autrement audible que la façon dont on avait pu et l'entendre et parfois le lire quand nous étions plus jeunes, et que précisément le récit de Théramène était plus morceau de bravoure. Qui était un morceau de bravoure pour le comédien, un morceau de bravoure poétique, mais qu'en fait on l'entendait comme étant un vrai texte d'un personnage à un autre, et qu'en même temps on arrivait aussi à entendre, j'ose pas dire la qualité du vers de Racine, parce que ça fait un peu donner le son, mais enfin, vous voyez qu'il y avait une manière de faire ce récit de Théramène, enfin de donner à entendre ce récit de Théramène par des variations dans la manière dont il était proféré, à la fois dans le ton, dans la gestuelle, etc., qui rethéâtraliser en quelque sorte ce moment très attendu. Et est-ce que peut-être ça vous a semblé d'abord un morceau de bravoure à vous du point de vue de la mise en scène? Est-ce que l'idée de le faire comme ceci est apparue très vite, ou comment vous avez...
Ah, ça c'est très facile, hein.
Alors
en fait, c'est quand même un accident de char, comme diraient les Québécois, c'est un accident de voiture. C'est épouvantable ce qu'il raconte, quoi. Une horreur. Et moi, depuis que je suis née, ma mère me disait, il suivait tout pensif le chemin de Trézène. Et je sais pas comment on peut raconter ça à un enfant, mais je ne sais toujours pas conduire, pour vous dire. Terrorisée par ce récit, quoi. Et là, c'était évident que le travail avec David, c'était un travail d'image absolue. Pour moi, c'est un moment de cinéma, enfin c'est construit comme un moment de cinéma. C'est hallucinant, parce que Il y a, on voit le, on voit les travelling, on voit le plan large, comment ça se resserre sur ses mains, comment ça revient sur l'œil de la bête qui repart par le sien. Qui, enfin, c'est extraordinaire, hein, ça. Et pour l'avoir étudié dans, chez plein d'auteurs, il y a longtemps. Mais là, chez Racine, c'est de la folie, quoi. Donc, en fait, il fallait juste que le comédien accepte de rentrer dans les images. Et c'est d'ailleurs assez amusant. Puis David, il fait ça très bien. Et ce qui est assez amusant, c'est aussi d'être précis sur les images. On peut pas dire quelque chose sans être extrêmement précis. Il fallait que ce monstre, il ait aussi une certaine précision. Parce que Racine joue avec le son. Il y a la terre, il y a la mer qui hurle, il y a la terre qui gémit, enfin, c'est un tsunami, quoi. Et puis d'un seul coup, il y a un monstre. Mais alors, ce qui est drôle, c'est qu'à chaque fois, quand on voit des BD pareils sur Thésée, Hippolyte, et on voit, et là, on a un monstre qui est un truc, mais immense, comme dans des. Enfin, et non, en fait, c'est, si on écoute bien le texte, le monstre, il est rejeté par la vague. Il est rejeté au bout de la vague. Le monstre, il n'est pas. Il y a des tableaux qu'il représente, pas très grands. Hein, il a des cornes, des écailles jaunissantes, mais il n'est pas très grand. Et c'est surtout ça qui est horrible, c'est que c'est aussi quelque chose qui est abordable. C'est-à-dire qu'un truc qui sort de la flotte comme ça, ça pourrait être possible. On pourrait en voir. Donc c'était aussi vraiment décrypter le texte par les images, de les rapprocher du tableau, de les rapprocher. En fait, il ressemble à un petit dragon chinois. Il a un peu le format du dragon chinois. J'en ai vu des comme ça. Et puis après, c'est travailler entre David et moi sur les images, sur qu'est-ce que moi, pour moi, les ronces dégoûtantes. C'est énorme, quoi, de voir ce truc piquant avec le sang qui en tombe, enfin, comme quand on s'arrache et que sur des ronces, et que les ronces portent nos cheveux, c'est que des images possibles, et c'est de faire référence à toutes ces images possibles. Et sincèrement, c'est un travail. Des fois, je pouvais pas répéter plus d'une heure et demie dessus, quoi, parce que ça me mettait hors de moi. Après, c'est quelque chose, hein, de tenir avec tout. Enfin, quand on fait, c'est pas facile de dormir, hein, tout le temps, quoi, parce que entre la douleur de Phèdre, sa misère, l'accident de char, c'est violent. Hein, le désir, c'est de rendre ça concret, c'est de vous donner des images concrètes pour que ça circule entre nous, quoi, entre la scène et la salle, et puis que derrière, il reste peut-être juste des ronces dégoûtantes.
Ce qui était très frappant dans le récit de Terranel aussi, c'est que la qualité de l'émotion qui transparaissait du récit, ce que disait Zoé, hein, ça fait pas du tout le morceau de bravoure poétique. On est vraiment dedans. Enfin, vous avez expliqué le travail des images, mais aussi par la manière de dire les alexandrins, la rupture des tonalités. Enfin, le texte commence finalement sur un ton relativement familier et puis s'emporte. Et ça, je trouve qu'il y avait une qualité d'émotion qui pouvait peut-être être inattendue. Peut-être parce qu'on a une tradition scolaire autour du récit de Terramène qui fait que c'était vraiment frappant. Et qu'on était vraiment aussi dans un récit à un père qui vient perdre son fils.
Ouais. Et puis c'est lié aussi à toute la relation que Terramène aussi et Hippolyte tissent ensemble pendant l'ensemble du. C'était assez beau ça, et ces deux comédiens qui ne se connaissaient pas, de voir comment, à partir, en fait, la. Terramène vrille, Terramène qui est plutôt compagnon de Thésée, un peu le même style d'homme, voilà, Et d'un seul coup, au moment où le père bat l'enfant et où forcément les murs ne sont pas assez épais pour cacher les cris du père et les coups reçus par l'enfant, on faisait épargner les cris de l'enfant. On n'entend pas crier, mais bon, on entend. Et c'est à ce moment-là que Théramène, derrière, va recevoir Hippolyte dans ses bras et que. Et c'était assez beau de voir comment, en fait, une relation affectueuse s'est développée entre les deux comédiens en passant par là. Ils sont, ben, y a, voilà, ils sont Théramène et Hippolyte aussi dans leur lien maintenant. Ce qui est aussi, encore une fois, très violent, c'est que le récit, l'effet à Thésée, qui est... Olivier étant le père d'Ulysse. Donc, ça nous a valu quelques moments quand même. Ah, mais Thésée, c'est couper les cheveux. Ça, c'est bien. Viens ici, Thésée. Non. Ah, ça, ça me fait plaisir parce que hier, je me suis dit, il ressemble un peu à un peintre grec. Là.
Sens vous lui donneriez aujourd'hui pour nos publics pour le mot de tragédie.
Bah là, en général ou pas trop en général, je peux juste parler de là. Hein. Oui, parce que là, d'un seul coup, j'ai mes études grecques me ramènent plus sur la tragédie, la racine. En tout cas, là, il est question d'un drame intime. Et de la même façon que Médée est une tragédie. Mais c'est vrai que ce mot, il est intéressant parce qu'il est de quel point, à quel endroit on se place pour dire qu'il est question de tragédie. Quoi. Et là, la tragédie, c'est à la fois la tragédie familiale, amoureuse, enfin, la tragédie de cet enfermement, de la tragédie du couple.
Parce qu'en fait, il y a une chose, peut-être, pour redire ce que vous avez fine, on a été frappé que parfois, il y a des mises en scène de fêtes qui sont un peu comme si c'était un drame bourgeois du 19e, précisément parce que c'est un drame entre des individus. Et qu'en fait, soit pour une question de langue, soit pour une question de scénographie, soit pour une question de direction d'acteur, ou peut-être les trois, hein, mais de fait, c'était effectivement monté comme une tragédie. Et on était assez contents de voir une tragédie. J'imagine que vous avez pensé à cette question de tragédie, enfin, de quel sens ça pouvait avoir de monter du théâtre du 17e comme une tragédie.
En fait, c'est que ça n'a jamais fait doute pour moi que c'était une tragédie, mais ça, c'est aussi parce que la pièce s'inscrit dans une grande lignée qui vient depuis l'Antiquité. Donc, c'est à la fois. En fait, je ne me suis pas trop. Pardon, parce que je connais une spécialité maintenant, mais je ne me suis pas trop dit voilà, c'est une pièce. C'est une pièce du 17e. Ça s'est posé pour moi tout au début. Je me suis dit, alors attends, c'est Racine. Donc les costumes, c'est des costumes du théâtre classique. C'est des costumes, même étant Racine, c'est des costumes de l'Antiquité, puisqu'on peut revenir en arrière. Ils sont en toge, ils sont en robe à panier. Alors là, non, j'avais pas envie de ça parce que j'avais aussi envie que l'espace et la langue frottent. Et c'est aussi de cette confrontation qu'il me semble que des choses peuvent naître et peuvent aussi nous parler là. Quoi. Il y a des pièces qui étaient parfois. J'essaie de réfléchir. Oui, si j'ai fait la place royale, c'était aussi dans des costumes contemporains. Mais je pense que j'ai inversé. Oui. Ah non. Non, je sais pas. Je sais plus.
Merci beaucoup. Peut-être qu'on peut consacrer un temps à des questions dans le public. Profitez-en.
Alors, vous avez parlé de beaucoup de choses très techniques. Et d'ailleurs, à un moment, vous avez dit que on ressent plus qu'on ne réfléchit. Et moi, la question qui me vient, c'est que les alexandrins, ce n'est pas une langue qui est très commune. Voilà, vous êtes quatre personnes qui je pense, gèrent cette langue. Voilà, aujourd'hui en France, je ne pense pas que tout le monde maîtrise les alexandrins. Donc, est-ce que, à certains moments, vous sentez obligé, ou vous ne le faites pas parce que vous avez fait le choix de ne pas le faire, d'épurer certaines choses, ou pour que tout atteigne tout le monde, parce que tout le monde ne voit pas tous les détails. Quand vous avez parlé par exemple d'un geste à un certain moment, pour moi c'est probable qu'il y ait des personnes dans le public qui n'ont même pas pu voir ce geste pour comprendre le texte qui était dit et l'intensité de ce qui était dit. Du coup, est-ce qu'il y a une recherche aussi par rapport à ça, ou au contraire, c'est une volonté justement que tout le monde voit ce qu'il voit et en tire ses conclusions personnelles.
Que tout le monde comprenne, la même chose en fait. En fait, quand on a, vous l'avez vu hier, c'est ça ? D'accord. On pourra peut-être en reparler, en fait. Mais alors, parlons plutôt de l'alexandrin en général. L'idée, c'est quand même c'est que ça a beau être des alexandrins, une forme, c'est un sens. Et il y a aussi une ponctuation qui nous aide dans le sens. Donc, l'alexandrin, des fois, il court l'alexandrin, mais il repart de l'autre côté. L'alexandrin, il est en deuxième istiche. Enfin, il y a... Mais ce qui importe, c'est le sens. Et l'alexandrin en lui-même, enfin, nous, on a essayé vraiment d'être précis sur les muets, sur les dièses, sur tout ça. On a essayé d'être juste. Alors, des fois, j'ai bien entendu hier qu'il y en avait 3-4 qui avaient quand même... Non, pas 3-4 comédiens, 3-4 mots qui n'étaient pas exactement comme il fallait, mais ce qui est important, c'est à la fois le sens et le respect de cette langue qui n'est pas, qui ne nous est pas étrangère du tout, parce que c'est aussi un souffle, c'est aussi un rythme, c'est un souffle, et j'ai envie de dire que ce qui pourrait le dire aussi, c'est que le rap se construit aussi comme ça, qui est une langue qui vient comme ça et qui... Et on a tous du plaisir de faire des alexandrins parfois et d'entendre des alexandrins dans le rap. Et donc je pense pas que ce soit une langue qui soit si compliquée. Ce qui est important, c'est de comprendre absolument ce qu'on est en train de raconter et de le raconter, de le faire passer depuis la scène vers la salle.
Peut-être juste pour ajouter deux choses. La première, c'est qu'en fait, c'est beaucoup plus facile à entendre qu'à lire tout seul devant son bureau. Et donc, en fait, quand vous les entendez, vous n'avez plus cette altérité que vous avez seul devant votre petit classique Larousse qui est dans mon sac. Et deuxièmement, peut-être aussi qu'en fait, ce que montrent les travaux, c'est qu'en fait, on vise d'abord le cœur du spectateur au 17e. On ne vise pas d'abord son cerveau. Et donc, en fait, on vise à ce que le spectateur soit ému, qu'il soit bouleversé, etc. Donc, en fait, l'alexandrin, il n'est pas choisi comme une forme intellectuelle. Il est d'abord choisi comme une forme qui porte l'émotion. Et donc, d'une certaine façon, normalement, même si vous êtes moins familier de l'alexandrin que moi, ce qui n'est même peut-être pas sûr, en fait, vous serez tout autant ému. Donc, c'est rassurant, si je veux dire.
Oui, j'aimerais bien revenir là-dessus, parce que la question de l'élitisme supposé des études classiques me concerne au premier jet. Je lutte contre cette idée qui est fausse. Et il faut revenir au 17e pour se rendre compte à quel point elle est fausse. On parlait tout à l'heure du sublime, on n'en a pas encore parlé, mais pour les poètes du XVIIe siècle, Racine, c'est l'exemple du sublime. C'est-à-dire le merveilleux qui transporte, qui ravit, qui élève l'âme, qui vous touche, qui vous bouleverse, qui vous ravit l'âme. C'est pas ce qui vous pose difficulté, mais il faut encore se sentir disponible, donc ne pas se partir avec l'idée que ce n'est pas pour vous. Si c'est pour vous, votre plus profond en vous.
Il reste 10 minutes, juste. Oui, peut-être pour répondre à ce que tu as dit, puisqu'on se connaît un peu via, via l'école, c'est peut-être pas forcément l'alexandrin, mais il y a le vocabulaire quelquefois dont le mot a changé, et c'est vrai que c'est tout le travail du metteur en scène d'éclairer au plateau. Mais moi, je veux revenir sur deux, trois petites choses que vous avez dites, et puis après arriver sur une question. Il y a quelque chose d'intéressant, vous avez parlé de Thésée, qui est un vrai connard, c'est le moins qu'on puisse dire. Mais si on regarde tous les rois chez Racine, que ce soit Pyrrhus, que ce soit Néron, que ce soit Mithridate, que ce soit Murat, même s'il n'est pas dans Bajazé, sont quand même tous de sacrés connards. Donc, je pense que c'est fait exprès, ce qui fait qu'on est face à des figures de femmes qui ne peuvent être que des femmes fortes et qui ont toutes, même à la fin, quand ce qui se passe entre la dernière image entre Aricie et Thésée, et que je ne vais pas spoiler, puisque certains n'ont pas vu le spectacle, ça ne peut être qu'un geste politique, d'une manière ou d'une autre, d'affirmer sa puissance. Et je voulais justement vous poser comme question, qu'est-ce qui a déterminé chez vous ce choix véritablement d'avoir une lecture très politique au départ de la pièce ?
Bah, en fait, je n'ai pas choisi. Hein. C'est-à-dire que je... étant ici et maintenant, je peux parler que d'ici et maintenant, et du coup voilà, c'était aussi le moment où la pièce arrivait pour moi dans ce monde-là, c'est-à-dire que c'est une pièce que je souhaite faire depuis longtemps, mais à un moment c'était le bon moment, et voilà, et du coup voilà, donc pour le coup ça devient politique, enfin ça devient de notre cité là.
Bonjour.
Bonjour.
J'ai eu la chance d'assister à la pièce hier soir, et bon, j'aurais tout un tas de questions à vous poser, mais je vais essayer de me concentrer sur quelques-unes. D'abord sur la question des costumes, des changements de costumes qui ont lieu sous nos yeux. Et par exemple, on voit au début la scène Fèdre, donc Anna Mouglalis qui arrive avec les jambes nues, enfin, qui est complètement au bord de la mort, et puis après on le voit qu'elle change de costume, elle porte ensuite le costume avec le pantalon, et donc j'aurais aimé vous interroger sur la raison de... Et puis même Thésée, par exemple, qui porte parfois une veste très très longue, et puis après on le voit poster simplement le costume. Et alors, voilà, la question de la motivation des changements des costumes.
Alors, là je suis un peu embêtée si vous ne l'avez pas vu, parce que en fait... Elle est avec ses chaussettes comme on est toutes quand ça va pas forcément bien et qu'on traîne et que voilà, et puis ensuite dès l'instant où elle dit vivons et qu'elle a le pouvoir, bah, d'un seul coup juste elle s'habille, elle peut pas avoir le pouvoir et rester en combinaison chaussettes, et du coup après elle a des chaussures, et puis après quand même ça va pas fort, donc on balance les chaussures, on balance le voilà, et marcher dans un pantalon à talons sans ses talons ça casse un peu l'image quand même, et voilà, et c'est pas plus que ça. Et Thésée, alors lui il a la chance de sortir puisqu'il fait partie des personnages qui peuvent parcourir la salle, et il sort à court chez Neptune, et voilà, il aurait pu revenir dans la même tenue que celle avec laquelle il était arrivé, c'est-à-dire en guerrier, enfin là j'avais quand même envie par rapport à la scène notamment finale, que lui-même soit dans un costume, c'est-à-dire que lui aussi il a aussi cette responsabilité de finalement le smoking étant l'image d'un uniforme, et d'un uniforme lié quand même à une certaine classe. Donc c'est pour ça qu'il se change complètement, il change de chaussures, de pantalons, de tout là-haut, et quand il revient, il est parce qu'il est à l'intérieur, enfin il reste à l'intérieur du théâtre.
Dernière question. C'est par rapport à c'est pareil, des questions de scénographie. Sur scène, il y a une espèce de rectangle dans lequel évoluent les personnages, et peu en sortent. Il y a Phèdre qui meurt à la fin, qui sort de ce rectangle sur scène, et puis il y a évidemment Thésée qui interpelle le spectateur, et ce qui crée aussi une impression bah, de gêne, parce que parler, et puis évidemment, on ne va pas répondre à tes quand on est dans... Alors, comment est-ce que vous en êtes venu à ce choix de scénographie, de faire prendre à partie tes le public?
Alors là, facile aussi. Ouais. Parce qu'en fait, dès l'instant où on fait sortir Hippolyte, pour moi, c'était évident que ça... Il fallait que je crée les liens entre la scène et la salle, de toute façon. Et là, poser ces questions-là à son fils, ou poser ces questions-là à Théramène, ça ouvrait vers d'autres choses. Et là, c'était tellement, tellement jouissif de se dire qu'il y avait ces lignes qu'on peut dépasser, qui peuvent être inquiétantes, parce que quand un type comme ça, d'un seul coup, vient vers nous, on ne peut pas oublier... la pitié, mais on ne peut pas oublier la terreur non plus, de se dire, voilà, moi aussi on m'interpelle. Et pour moi c'était important parce que c'était le pendant à Théramène. C'est-à-dire que Théramène, il fait aussi son discours, il est pour, c'est à Thésée qu'il est en train de raconter, mais il le dit à la salle. La position, en fait, au début, la position naturelle, c'était d'arriver et d'être sur ce plateau, c'est-à-dire d'occuper tout seul le vide du plateau et d'être là. Et d'un seul coup, ça, c'est vraiment un geste de répétition. On s'est dit, non, il faut que... Et moi, j'ai vu l'intérêt d'avoir ces deux paroles qui étaient des passerelles entre la scène et la salle.
Merci.
Allez, une petite question. C'est ça. Allez-y.
Thank you.